Le logement d'un jour. John Messner se cramponnait d'une main miténée à la barre branlante et maintenait le traîneau sur la piste. De l'autre main miténée, elle aussi, il frottait ses joues et son nez presque sans cesse, et parfois, lorsque l'engourdissement augmentait, il frottait avec rage. Son front était couvert par la visière de sa casquette de fourrure dont les rabats cachaient ses oreilles. Ce qui restait de sa figure était protégé par une barbe épaisse d'un brun doré sous une couche de glace. Derrière lui glissait un traîneau de Yukon lourdement chargé, et devant lui tirait un attelage de 5 chiens. La corde du traîneau frottait la jambe de Messner. Lorsque les chiens tournaient à un coude de la piste, il enjambait la corde, et comme il y avait beaucoup de tournants, il lui fallait souvent l'enjamber. Parfois il trébuchait ou bronchait. Il était toujours maladroit et trahissait une fatigue si grande que de temps à autre le traîneau lui veinait sur les talons. Arrivé à un endroit où les pistes allaient en ligne droite, où le traîneau pouvait glisser un moment sans guide, il lâcha la barre et frappa énergiquement sa main droite contre le bois dur. Il put avec peine maintenir la circulation dans cette main-là, mais tout en la secouant, il ne cessait de frotter son nez et ses joues avec l'autre. « En tout cas, dit-il, il fait trop froid pour voyager. » Il parlait tout haut comme font les hommes qui sont souvent seuls. « Il faut être fou pour voyager par une température pareille. » Et s'il n'y a pas 80 degrés au-dessous, c'est parce qu'il y en a 79. Il sortit sa montre et, après quelques tâtonnements, put la remettre dans la poche de son épaisse veste de laine. Puis, il regarda les cieux et laissa son œil suivre la ligne blanche de l'horizon jusqu'au sud. « Midi, grommela-t-il, un ciel clair et pas de soleil. » Il continua à marcher pendant 10 minutes, puis, comme s'il n'avait pas cessé de parler, il ajouta « Et pas de chemin parcouru. Il fait trop froid pour voyager. » Tout à coup, il cria « Waouh !» au chien et s'arrêta. Sa main droite semblait l'affoler. Il recommença à la frapper furieusement contre la barre. « Pauvre diable que vous êtes !» il parlait au chien qui s'était laissé tomber lourdement sur la glace pour se reposer. Son exclamation brusque et soudaine avait été arrachée par la violence avec laquelle il frappait contre le bois sa main engourdie. « Enfin, qu'avez-vous fait pour qu'un autre animal bipède arrive, vous dresse aux harnais, mate tous vos penchants naturels et fasse de vous des animaux esclaves ?» Il se frotta le nez, non pas d'une manière distraite, mais brutalement, afin d'y faire circuler le sang. Puis, il pressa les chiens de reprendre leur travail. Il voyageait sur la surface gelée d'une grande rivière qui derrière lui s'en allait en une courbe gigantesque de bien des milles et se perdait dans le chaos fantastique de montagnes silencieuses et couvertes de neige. Devant lui, la rivière se séparait en bras nombreux afin de laisser de la place aux îles qu'elle portait sur son sein. Ces îles étaient silencieuses et blanches. Aucun animal, aucun insecte bourdonnant n'interrompait le calme, aucun oiseau ne volait dans l'air gelé. On ne percevait aucun son humain, aucune trace de l'œuvre de l'homme. Le monde dormait, et cela ressemblait au sommeil de la mort. John Messner paraissait succomber à l'apathie de tout ce qui l'entourait. Le froid était en train d'engourdir son esprit. Il allait de l'avant, la tête basse, sans rien observer, frottant machinalement son nez et ses joues, et heurtant contre la barre la main qui gouvernait lorsque la piste allait en droite ligne. Mais les chiens, eux, observaient, et tout à coup ils s'arrêtèrent, tournant la tête vers leur maître et le regardant avec des yeux pleins d'anxiété et de questions. Leurs cils étaient gelés et blancs, ainsi que leurs museaux. Le givre et la fatigue leur donnaient l'apparence de la décrépitude. L'homme allait les pousser en avant lorsqu'il s'arrêta, se redressa avec effort et regarda autour de lui. Les chiens s'étaient arrêtés près d'un trou, non pas une fissure, mais bien un trou fait par l'homme, creusé avec effort à coups de hache au travers de 3 pieds et demi de glace. Une épaisse couche de glace nouvelle montrait que non, ce n'était pas servi depuis quelque temps. Messner leva les yeux. Les chiens lui montraient déjà où aller. Chaque museau blanc et anxieux était dirigé du côté du sentier de neige à peine tracé, qui quittait la piste principale de la rivière et qui remontait la berge de l'île. « Ça va bien, pauvre bête fourbue, dit-il. Je vais aller voir. Vous n'avez pas plus envie que moi d'aller plus loin. » Il gravit la pente de l'île et disparut. Les chiens ne se couchèrent pas, mais inquiets, attendirent son retour sur leurs pattes. Il revint vers eux, prit une corde sur le devant du traîneau et se la passa autour des épaules. Alors, il tourna les chiens à droite et leur fit monter la côte en courant. C'était d'un dur coup de collier. Mais leur fatigue disparut tandis qu'ils rasaient la neige, aboyant d'impatience et de joie, luttant et donnant dans cet effort la dernière once de leur corps. Quand un chien glissait ou tombait, celui qui était derrière lui mordait l'arrière-train. L'homme leur jetait des cris d'encouragement et de menaces et mettait tout son poids sur la corde de halage. Ils montèrent d'un élan, tournèrent à gauche et filèrent jusqu'à une petite cabine faite de troncs d'arbres où ils s'arrêtèrent. C'était une cabine déserte, à une seule pièce de 8 pieds sur 10. Messner détela les animaux, déchargea son traîneau et prit possession de la hutte. Le dernier voyageur de hasard y avait laissé une provision de bois à brûler. Messner établit son petit poêle de fer et alluma un feu. Il y mit, afin de les dégeler pour les chiens, 5 saumons séchés au soleil, et remplit au puits de glace sa cafetière et sa marmite. En attendant que l'eau bouillît, il tint son visage au-dessus du poêle. L'humidité de son haleine s'était déposée sur sa barbe et s'y était gelée en gros glaçons qu'il commença à faire fondre. Au fur et à mesure que cela fondait et tombait sur le poêle, cela sifflait et l'enveloppait de vapeur. Il hâta l'opération avec ses doigts, détachant des petits glaçons qui tombèrent avec bruit sur le plancher. Les aboiements sauvages des chiens au dehors ne le détournèrent pas de sa tâche. Il entendit les grognements et les cris de loups d'un autre attelage et le son de voix. On frappa à la porte. « Entrez !» cria Messner d'une voix étouffée, car à ce moment même, il était en train de sucer un glaçon dont il essayait de débarrasser sa lèvre supérieure. La porte s'ouvrit, et au travers de la vapeur qui l'entourait, il vit un homme et une femme arrêtés sur le seuil. « Entrez !» dit-il d'un ton décisif, « et fermez la porte !» Il ne pouvait guère juger de leur apparence. Une casquette dont les rabats couvraient le nez et les joues, un long cache-nez qui entourait la tête, ne laissait voir de la femme qu'une paire d'yeux noirs. L'homme aussi avait des yeux noirs. Il était rasé, sauf la moustache qui était si gelée qu'elle cachait sa bouche. « Nous voulions savoir s'il y avait une autre cabine dans les environs, » dit-il en regardant la pièce nue. « Nous pensions que cette cabine était vide. »« Ce n'est pas ma cabine, » répondit Messner. « Je l'ai trouvée il n'y a que quelques minutes. Entrez et installez votre camp. Il y a de la place pour tous et vous n'aurez pas besoin de votre poêle. » Au son de sa voix, la femme le regarda rapidement avec curiosité. « Enlevez vos affaires, » lui dit son compagnon. « Je vais dételer et chercher de l'eau afin de pouvoir commencer la cuisine. » Messner emporta au dehors le saumon dégelé et nourrit ses chiens qui l'eut à défendre contre l'autre attelage. Lorsqu'il rentra dans la cabine, l'homme avait déchargé son traîneau et cherché de l'eau. Le pot de Messner bouillait, il y jeta le café, fit descendre le marc avec une demi-tasse d'eau froide et l'enleva du poêle. Il dégela des biscuits dans le petit four tout en réchauffant des haricots qu'il avait bouillis la nuit précédente et qui avaient été gelés toute la journée. Il débarrassa le poêle de ses ustensiles afin de donner aux nouveaux venus de la place pour faire leur cuisine et commença, assis sur le lit roulé, à manger son repas sur sa boîte à provisions. Entre les bouchées, il parla pisse des chiens avec l'homme qui, la tête au-dessus du poêle, faisait fondre la glace de sa moustache. Celui-ci, quand il eut fini, lança son lit roulé dans l'un des deux cadres qui se trouvaient dans la cabine. « Nous coucherons là, dit-il, à moins que vous ne préfériez ce cadre. Vous êtes le premier arrivé, vous savez, vous pouvez choisir. » « Ça va bien, » répondit Messner, « un cadre vaut l'autre. » Puis, il déroula son lit dans le deuxième cadre et s'assit sur le rebord. L'étranger mit une petite trousse de médecin sous ses couvertures à l'une des extrémités pour s'en faire un oreiller. « Docteur ?» demanda Messner. « Oui, » fut la réponse, « mais je vous assure que je ne suis pas venu au Klondike pour me faire une clientèle. » La femme s'occupait de la cuisine tandis que l'homme découpait du lard et entretenait le feu du poêle. La lumière blafarde entrait dans la cabine par une petite fenêtre, faite de papier pelure frotté de lard, de sorte que John Messner ne pouvait pas bien voir les traits de la femme. Ce n'est pas qu'il essaya, car elle ne semblait pas l'intéresser. Mais elle regardait de temps à autre, curieusement, vers le coin obscur où il était assis. « Oh, c'est une belle existence !» dit le docteur avec enthousiasme, s'arrêtant d'aiguiser son couteau sur le tuyau du poêle. « Ce qui me plaît en elle, c'est la lutte, l'effort qu'on fait de ses propres mains. C'est le primitif, la réalité. » « La température est assez réelle, » dit Messner en riant. « Savez-vous vraiment le froid qu'il fait ?» demanda le docteur. L'autre secoua la tête. « Eh bien, je vais vous le dire. 74 au-dessous de zéro au thermomètre à alcool sur le traîneau. Cela fait 106 au-dessous du degré de gelée qu'on considère comme trop froid pour voyager. Eh. »« C'est du suicide, » ajouta le docteur. « On se fatigue, on respire fortement, on prend dans les poumons la gelée elle-même et l'on gèle leur tissu. » On attrape une toux sèche qui nous secoue tandis que le tissu mort se détache. L'été suivant, on meurt de pneumonie et on se demande pourquoi. Je reste dans cette cabine pendant une semaine, à moins que le thermomètre ne remonte au minimum jusqu'à 50 dessous. Dites donc, Tess, ajouta-t-il aussitôt, ne croyez-vous pas que ce café ait bouilli assez longtemps ? Dès qu'il entendit le nom de la femme, John Messner dressa l'oreille. Il la regarda rapidement, tandis que sur son visage passait comme l'ombre d'un souvenir qui l'obsédait, le fantôme de quelque misère ensevelie qui soudain ressuscitait. Mais la seconde suivante, il avait chassé le fantôme par un effort de sa volonté. Son visage était aussi calme qu'auparavant, quoiqu'il fût encore sur le qui-vive et qu'il s'impatientât contre cette lumière faible qui lui montrait si peu le visage de la femme. Machinalement, le premier mouvement de celle-ci avait été de replacer la cafetière, et ce n'est qu'ensuite qu'elle regarda Messner. Mais il s'était déjà calmé. Elle ne vit qu'un homme assis sur le rebord du cadre et considérant sans curiosité le bout de ses mocassins. Cependant, lorsqu'elle se détourna comme pour s'occuper de sa cuisine, il lui lança un regard rapide qu'elle surprit aussitôt en tournant la tête. Les yeux de l'homme allaient vers le docteur par-dessus elle. Il y avait sur sa lèvre un sourire à peine esquissé qui la complimentait sur la façon dont elle l'avait pris au piège. Elle sortit une bougie de la boîte aux provisions et l'alluma. Un seul regard du côté de la figure éclairée suffit à Messner. Dans la cabine étroite, le coin le plus reculé n'était qu'à quelques pas. Au même instant, elle était près de lui. Hardiment, elle porta la bougie tout contre le visage de l'homme, le regarda fixement, et quand elle le reconnut, ses yeux se dilatèrent de peur. « Lui ?» répondit tranquillement d'un sourire. « Que cherchez-vous, Tess ?» demanda le docteur. « Les épingles à cheveux !» dit-elle en s'écartant et en fouillant dans un porte-manteau posé sur le cadre. Ils placèrent les victuailles sur leur caisse à provisions, s'assirent sur la caisse de Messner et lui firent face. Celui-ci s'était allongé sur son lit pour se reposer, couché sur le côté, la tête sur son bras. Dans la pièce étroite, c'était comme si tous trois étaient à table. « De quelle partie des États-Unis venez-vous ? » demanda Messner. « San Francisco, » répondit le docteur. « Pourtant, je suis dans ce pays depuis 2 ans. »« Moi, je suis aussi de Californie, » annonça Messner. La femme le regarda d'un air suppliant, mais il sourit et continua. « Berkeley, vous connaissez ?» L'autre homme devenait attentif. « Université de Californie, » demanda-t-il. « Oui, classe 86. »« Je voulais dire faculté, » expliqua le docteur. « Vous me rappelez le type. » « Je regrette de vous entendre dire cela, sourit Messner. Je préférerais être pris pour un chercheur d'or ou un conducteur de chien. Je ne crois pas qu'il ait l'air d'un professeur plus que vous d'un docteur, » dit la femme. « Merci, » dit Messner. Puis, se tournant vers l'homme, « À propos, docteur, quel est votre nom, si je puis me permettre ?»« Hayton, si vous voulez bien me croire. J'ai fini mon jeu avec la civilisation. »« Et Madame Hayton aussi ?» dit Messner en saluant. Elle lui lança un regard où il y avait plus de colère que de supplication. Hayton allait demander à l'autre son nom. Il avait déjà la bouche ouverte pour questionner quand Messner l'interrompit. « Quand j'y pense, docteur, vous pourriez peut-être satisfaire ma curiosité. Il y a eu, il y a 2 ou 3 ans, une sorte de scandale dans le cercle de la faculté. La femme d'un des professeurs anglais, vous m'excuserez, madame Hayton, disparut avec un docteur de San Francisco. C'est du moins ce que j'ai compris, quoique je n'ai pas son nom sur les lèvres en ce moment. Vous rappelez-vous l'incident ?» Hayton fit un signe de tête. Cela fit grand bruit à l'époque. Son nom était Wumble, Graham Wumble. Il avait une splendide clientèle, je le connaissais quelque peu. Eh bien, ce que je voulais arriver à savoir, c'est ce qu'ils sont devenus. Je me demandais si vous l'aviez appris. Il n'avait laissé aucun indice, ni peau, ni poil. Il a caché ses traces avec ruse, dit Hayton en toussant. On disait qu'ils étaient allés dans les mers du Sud, qu'ils s'étaient perdus à bord d'un schooner dans un typhon ou quelque chose d'analogue. Je n'avais jamais entendu cela, dit Messner. « Vous vous rappelez la chose, madame Hayton ?»« Parfaitement, » répondit-elle d'une voix dont le calme formait un contraste étonnant avec la colère qui l'enflammait. Elle s'était détournée pour que Hayton ne pût voir sa figure. L'autre allait encore lui demander son nom, quand Messner remarqua « Ce docteur Wumble, j'ai entendu dire qu'il était très beau garçon, et qu'il avait, comment dirais-je, un grand succès auprès des dames. »« Eh bien, si c'était ainsi, cette affaire-là l'a finie, » grommela Hayton. Et la femme était une mégère, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Il était de notoriété publique à Berkeley qu'elle faisait de la vie de son mari pas tout à fait le paradis. Jamais je n'ai entendu cela, répondait Hayton. À San Francisco, on disait tout le contraire. Une sorte de femme martyre, crucifiée sur la croix du mariage? Le docteur fait un signe de tête. Les yeux gris de Messner étaient curieux tandis qu'il continuait. Cela va de soi, il y a 2 faces à un bouclier. Vivant à Berkeley, je n'en ai vu qu'à côté. Il paraît qu'elle allait beaucoup à San Francisco. Du café, s'il vous plaît, dit Hayton. La femme remplit la tasse tout en riant légèrement. Vous êtes en train de potiner comme une paire de vieilles, dit-elle sur un ton de gronderie. « C'est si intéressant, » dit Messner en lui souriant. Puis, s'adressant au docteur, « Alors, le mari n'a pas l'air d'avoir une très bonne réputation à San Francisco. » Au contraire, c'était un pédant de haute moralité, dit Thorne avec plus de feu qu'il ne semblait nécessaire. C'était une petite crevette pédante qui n'avait pas une goutte de sang rouge dans le corps. Le connaissiez-vous? Je ne l'ai jamais vu. Jamais je ne fréquentais les cercles universitaires. Encore à côté du bouclier, dit Messner avec un air de peser la chose comme un juge. Quoiqu'il ne valût pas grand-chose physiquement, il est vrai, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il fût si faible que cela. Il prenait de l'intérêt au sport du collège et avait quelques talents. Il écrivit une fois une pièce qui lui valut un certain succès dans son entourage. J'ai aussi entendu dire qu'il était inscrit pour la chaire d'anglais, mais l'affaire arriva. Il donna sa démission et partit. Cela brisa sa carrière, du moins c'est à supposer. En tout cas, de l'autre côté du bouclier, cela fut considéré comme son knock-out. On pensait qu'il aimait beaucoup sa femme. Hayton, finissant son café, grognait comme si la conversation ne l'intéressait pas et alluma sa pipe. C'est heureux qu'il n'ait pas eu d'enfant, continua Messner. Hector, en regardant le poêle, mit sa casquette et ses mitaines. « Je vais aller chercher du bois, dit-il. Puis je pourrai enlever mes mocassins et me mettre à mon aise. » La porte claqua derrière lui. Pendant une longue minute, il y eut un silence. L'homme sur son lit conservait la même position. La femme, assise sur la caisse aux provisions, lui faisait face. « Qu'allez-vous faire ? » demanda-t-elle brusquement. Messner la regarda avec une indécision pleine de paresse. « Que croyez-vous qu'il me faille faire ? Rien de dramatique, j'espère, vous voyez. Je suis fatiguée, fourbue par le voyage, et ce lit est si reposant. » Elle mordit sa lèvre inférieure et silencieusement ravala la colère qui brûlait en elle. « Mais, » commença-t-elle avec véhémence, puis elle enlaça ses mains et s'arrêta. « J'espère que vous ne voulez pas que je tue monsieur Hayton, » dit-il doucement, presque suppliant. « Ce serait très pénible et je vous assure... « Réellement inutile. »« Mais il vous faut faire quelque chose » cria-t-elle. « Au contraire, il est tout à fait facile de concevoir que je n'ai rien à faire. »« Vous resteriez ici ?» Il fit signe que oui. Elle regarda désespérée autour de la cabine et considéra le lit encore roulé sur l'autre cadre. « La nuit vient. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous ne pouvez pas, je vous le dis. C'est impossible. »« Naturellement, je le puis. »« Je vous rappellerai que, le premier, j'ai trouvé cette cabine et que vous êtes mes hôtes. » Une fois encore, les yeux de la femme firent le tour de la pièce, et la terreur les envahit quand elle revit l'autre lit. « Alors il faudra nous en aller, » dit-elle avec décision. « Impossible. Vous avez une toux sèche qui vous secoue. Cette toux que monsieur Hayton décrit si bien. Vous avez déjà refroidi vos poumons, et puis, et docteur, il sait, il ne le permettra pas. » « Mais alors qu'allez-vous faire ? » demanda-t-elle de nouveau d'un ton contenu et calme qui présageait un éclat. Messner la regarda d'une manière presque paternelle, car il avait tâché de faire preuve d'une pitié et d'une patience profonde. « Ma chère Teresa, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas, je n'y ai réellement pas songé. »« Oh, vous me rendez folle !» Elle se leva d'un bond et tendant ses mains d'impuissance. « Vous n'étiez pas ainsi dans le ton. »« J'étais tout douceur et tendresse, » dit-il en hochant la tête. « Est-ce pour cela que vous m'avez quitté ?»« Vous êtes si différente, d'un calme si effrayant, vous me faites peur. » Je sens que tout ce temps, vous avez préparé quelque chose de terrible. Mais quoi que vous fassiez, ne faites rien de fou. Ne vous exaltez pas. Je ne m'exalte plus, interrompit-il du moins depuis que vous êtes parti. Vous avez gagné, remarquablement, reprit-elle. Il eut un sourire de remerciement. Pendant que je pense à ce que j'aurai à faire, je vais vous dire ce que vous aurez à faire, vous. Vous direz à monsieur Hayson qui je suis. Cela rendra peut-être notre séjour dans cette cabine plus... « Dirais-je, sociable ? Pourquoi m'avez-vous suivi dans cet effroyable pays ? » demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Ne pensez pas que je sois venue ici à votre recherche, Teresa. Votre vanité ne doit pas être bercée d'une telle illusion. Notre rencontre est purement due au hasard. J'avais rompu avec la vie d'une université et il me fallait aller quelque part. Je dois dire, pour être honnête, que je suis venue au Klondike parce que je pensais que ce serait le dernier endroit où vous puissiez être. » On entendit un tâtonnement au loquet. La porte s'ouvrit et Hayton entra avec une brassée de bois. Au premier bruit, Teresa commença à enlever les plats. Hayton ressortit pour chercher encore du bois. « Pourquoi ne nous avez-vous pas présentés ? » demanda Messner. « Je lui parlerai, » répondit-elle. « Ne croyez pas que j'ai peur. » Je ne vous ai jamais connu fort effrayé de quoi que ce soit. Et je ne crains pas la confession non plus, dit-elle en adoucissant sa voix et les traits de son visage. Dans votre cas, je crains que la confession ne soit de l'exploitation par les moyens détournés, du profit fait par ruse, une auto-glorification aux dépens de Dieu. Ne soyez pas pédant, dit-elle en faisant la moue et en devenant plus tendre. Je n'ai jamais aimé les discussions de Bas-Bleu. Et puis, je ne crains pas de vous demander de me pardonner. Teresa, il n'y a rien à pardonner. À la vérité, je devrais vous remercier. C'est vrai, j'ai souffert tout d'abord. Puis, avec toute la grâce du printemps, je m'aperçus que j'étais heureux, très heureux. Ce fut une découverte étonnante. Mais si je revenais à vous, demanda-t-elle, vous me dérangeriez beaucoup, dit-il en la regardant d'une façon bizarre. Je suis votre femme, vous savez que vous n'avez jamais eu le divorce. Je vois, dit-il songeur, j'ai été négligent. Ce sera une des premières affaires à mettre en règle. Elle s'approcha de lui et posant sa main sur son bras. « Vous ne voulez pas de moi, John ?» Sa voix était douce et caressante. Sa main restait comme un appât. « Si je vous disais que je m'étais trompée, si je vous disais que j'étais très malheureuse, je le suis et je me suis trompée. » La peur commença à saisir Messner. Il se sentit frissonner sous la main posée si doucement. Il commençait à perdre notion de la situation et son calme magnifique s'en allait. Elle le regarda avec des yeux qui fondaient et tout en lui semblait aussi fondre en rosée. Il se sentit sur le bord d'un abîme, incapable de résister à la force qui lui poussait davantage. « Je vais revenir à vous, John. Je vais vous revenir aujourd'hui, maintenant. » Il se débattit sous cette main comme un cauchemar. Tandis qu'elle parlait, il lui semblait entendre le murmure doux du chant de la Lorelei. C'est comme si quelque part, un piano jouait, comme si les notes elles-mêmes venaient se heurter contre ses tympans. Soudain, il bondit sur ses pieds, la repoussa loin de lui alors qu'elle essayait de l'entourer de ses bras et recula vers la porte. Il était effaré. « Je vais faire une folie » cria-t-il. « Je vous avais prévenu de ne pas vous exciter. » Elle se mit à rire en se moquant de lui et commença à laver les plats. « Personne ne veut de vous, je ne faisais que jouer avec vous. Je suis plus heureuse là où je suis. » Mais Messner ne la crut pas. Il se rappelait la facilité avec laquelle elle changeait le front. Elle venait de changer de front un instant même. C'était de l'exploitation par des moyens détournés. Elle n'était pas heureuse avec l'autre homme. Elle avait découvert qu'elle s'était trompée. L'orgueil masculin l'enflamma lorsqu'il y pensa. Elle voulait revenir à lui, ce qui était justement la chose qu'il ne voulait pas. Inconsciemment, sa main secoua le loquet. « Ne vous sauvez pas, dit-elle en riant. Je ne vais pas vous mordre. « Je ne me sauve pas, répondit-il d'un ton de défi enfantin tandis qu'il mettait ses mitaines. « Je vais seulement chercher de l'eau. » Il prit les seaux vides, les marmites, et ouvrit la porte. Il se retourna pour la regarder. « N'oubliez pas de dire à monsieur Hayton qui je suis. » Messner brisa la couche de glace qui s'était formée dans le puits depuis une heure et remplit les seaux. Sur la piste, il marcha vite, de long en large, pour s'empêcher de geler car le froid mordait la chair comme du feu. Sa barbe était blanche de son haleine gelée lorsque ses sourcils froncés et indécis se détendirent. La décision était marquée sur son visage. Il avait arrêté dans son esprit la marche à suivre. Les lèvres et les joues frigides se relâchèrent en un ricanement. Les seaux avaient déjà une couche de glace nouvelle lorsqu'il les prit et retourna vers la cabine. En entrant, il trouva l'autre homme attendant debout près du poêle. Sa tenue avait quelque chose de raide et de gêné. Messner poussa les seaux d'eau. « Enchanté de vous rencontrer, Graham Womble, » dit-il d'un ton cérémonieux comme pour répondre à une présentation. Messner n'offrait pas la main. Womble remua, mal à l'aise, ressentant pour l'autre la haine qu'on est tenté d'avoir envers l'homme qu'on a offensé. « Alors c'est vous le gaillard, » dit Messner avec un accent d'étonnement. « Eh bien, voyez-vous, je suis réellement heureux de vous rencontrer. J'ai été curieux de savoir ce que Teresa avait découvert en vous, où se trouvait la séduction, dirais-je. Tiens, tiens. » Il toisa l'autre comme un homme toiserait un cheval. « Je sais ce que vous devez penser de moi, » commença Womble. « N'en parlons pas, » interrompit Messner, exagérant la cordialité de ses manières et de sa voix. « Cela ne fait rien. Ce que je veux savoir, c'est comment vous la trouvez. A-t-elle tout ce que vous attendiez d'elle? A-t-elle donné satisfaction? La vie a-t-elle été depuis un heureux rêve? Ne soyez pas bête, » interrompit Teresa. « Je ne puis m'empêcher d'être naturelle, » avoua Messner. « Vous pourriez être en même temps expéditif et positif, » dit Womble vivement. « Ce que nous voulons savoir, c'est ce que vous allez faire. » Messner feignit un geste d'impuissance. « Vraiment, je ne sais pas. C'est une de ces situations impossibles que l'on ne peut pas prévoir. » Nous ne pouvons pas passer tous les trois la nuit dans cette cabine. Messner approuva d'un signe de tête. Alors, il faut que quelqu'un sorte. Ceci aussi est indiscutable, dit Messner. Quand trois personnes ne peuvent pas occuper la même place au même moment, il faut que l'une d'elles s'en aille. Et vous êtes cette personne, dit Wumble froidement. La course est de 10 000 jusqu'au camp prochain, mais vous pouvez faire cela facilement. Et c'est là le premier point faible de votre raisonnement, objecta l'autre. Pourquoi serais-je nécessairement celui qui doit sortir? J'ai trouvé la cabine le premier. Mais Tess ne peut pas sortir, expliqua Wumble. Elle a déjà les poumons touchés par le froid. Je suis de votre avis. Elle ne peut pas risquer 10 000 par la gelée. Décidément, elle doit rester. Alors c'est comme j'ai dit, fit Wumble pour en finir. Messner se dégagea la gorge. Vos poumons sont en bon état, n'est-ce pas? Oui, et après? L'autre toussa de nouveau et parla laborieusement avec lenteur. Oh, rien! Excepté que d'après votre propre raisonnement, il n'y a rien qui puisse vous empêcher de vous en aller et lutter contre la gelée. Pour ainsi dire, pendant une course de 10 000, vous le ferez aisément. Wumble donna à Teresa un regard rapide et soupçonneux, et saisit dans les yeux de la femme une étincelle de surprise satisfaite. Eh bien, demanda-t-il à sa femme. Elle hésita, et un flot de colère embrunit sa figure. Il se tourna vers Messner. C'est assez, vous ne pouvez pas rester ici. Si, je le puis. Je ne vous le permettrai pas, Wumble carra ses épaules. C'est moi qui arrange les choses ici. En tout cas, je reste, persista l'autre. Je vous mettrai dehors, je reviendrai. Wumble s'arrêta un moment pour calmer sa voix et pour se contrôler. Alors, il parla posément d'une voix basse et ferme. Écoutez, Messner, si vous refusez de sortir, je vous battrai. Nous ne sommes pas en Californie ici. Je vous assommerai de mes deux poings. Messner haussa les épaules. Si vous faites cela, je rassemblerai un meeting de mineurs et je vous verrai pendu au premier arbre. Comme vous le dites, nous ne sommes pas ici en Californie. Ces mineurs sont des gens simples, et tout ce que j'aurai à faire sera de leur montrer les marques de vos coups. Leur dire la vérité sur vous et réclamer ma femme. La femme essaya de parler, mais Wumble, furieux, se tournant vers elle, cria. Ne vous mêlez pas de cela! S'il vous plaît, Teresa, laissez-nous discuter, ajouta Messner d'un ton qui contrastait avec celui de l'autre. La colère de la femme et les sentiments qu'elle réprimait irritèrent ses poumons et provoquèrent une toux sèche qui la secoua. Le sang au visage et une main crispée contre sa poitrine, elle attendit la fin de l'accès. Wumble la regarda tristement en remarquant sa toux. Il faut en finir, dit-il. Et pourtant, ses poumons ne peuvent pas être explosés. Elle ne peut pas voyager avant que la température ne remonte. Et puis, je ne vais pas l'abandonner. Messner toussa de nouveau comme pour s'excuser et dit « Je veux de l'argent ». Le mépris se montra aussitôt sur la figure de Wumble. Enfin, l'autre avait glissé encore plus bas que lui dans la vilenie. « Vous avez un sac de poudre d'or qui est gros, » continua Messner. « Je vous ai vu le décharger du traîneau. »« Combien vous faut-il ? » dit Wumble avec autant de mépris dans la voix que sur son visage. « J'ai calculé ce qu'il pouvait y avoir dans le sac et je dirais qu'il pèse 20 livres environ, mettons 4 000 $. « Mais c'est tout ce que j'ai !» cria Wumble. « Mais vous avez Teresa, » dit l'autre doucement. « Elle doit valoir cela. Pensez à quoi j'ai renoncé. Sûrement, c'est un prix raisonnable. »« All right. » Wumble courut au sac d'or qui était sur le parquet. « Je ne puis terminer cette affaire trop vite, espèce de... ver immonde. »« C'est là où vous faites erreur, » reprit Messner en souriant. « Au point de vue de la morale, est-ce que l'homme qui donne un pot de vin vaut mieux que celui qui le prend ?» Le receleur n'est pas meilleur que le voleur, vous savez, et vous n'avez pas besoin de vous consoler avec une fausse supériorité morale en ce qui concerne ce petit marché. Au diable votre morale, cria l'autre. Venez ici et surveillez les pesées de cette poudre, je pourrais tricher. Et la femme, appuyée contre le lit, impuissante et blanche de rage, se vit peser en poudre jaune et en pépites dans les balances placées sur la caisse aux provisions. Les balances étaient petites, nécessitant de nombreuses pesées, et Messner vérifia chaque pesée avec soin. « Il y a trop d'argent là-dedans, » remarqua-t-il en ouant le sac d'or. « Je ne crois pas que cela vaille tout à fait 16 $ l'once, Wumble. C'est vous qui faites la meilleure affaire. » Il mania le sac avec amour et le porta dehors sur son traîneau avec tous les égards dus à sa valeur. Il rentra, ramassa ses ustensiles, rangea sa caisse à provisions et roula son lit. Quand tout fut ficelé sur le traîneau et que les chiens grognons furent attelés, il revint dans la cabine pour chercher ses mitaines. « Adieu, Tess, » dit-il, debout près de la porte ouverte. Elle se retourna vers lui, essayant de parler, mais trop furieuse pour exprimer la passion qui brûlait en elle. « Adieu, Tess, » répéta-t-il doucement. Brute, arriva-t-elle à articuler. Elle fit volte-face, chancela du côté du lit et tombant la figure sur les couvertures, elle sanglota. Brute que vous êtes, brute! John Messner ferma doucement la porte derrière lui et en faisant démarrer les chiens regarda du côté de la cabine. Son visage trahissait un très grand soulagement. Au bas de la pente, près du puits, il arrêta le traîneau. Il dégagea le sac d'or des cordes qui le retenaient et le porta près du trou. Une nouvelle couche de glace était déjà reformée, il la brisa à coups de poing. Il défit le nœud avec ses dents et vida le contenu du sac dans l'eau. La rivière était peu profonde à cet endroit, et à 2 pieds au-dessous de la surface, il pouvait voir le fond d'un jaune mat à la lumière mourante. Il cracha dans le trou. Il fit partir les chiens sur la piste du Yukon. Ceux-ci, sans énergie, se plaignaient et travaillaient à contre-cœur. Tenant la barre de la main droite et frottant de la gauche son nez et ses joues, il trébucha sur la corde quand les chiens virèrent au tournant. « Marchons en avant, pauvres brutes fourbues !» leur cria-t-il. « C'est ça, marchons !»